Jérôme Gorgeau qui est avec moi.
Bonjour, bonjour.
Et vous avez bien sûr reconnu le petit jingle qui va dans les îles. Tu te rappelles de ça?
Ah ouais, c'était une petite pastille, comme on dit, un petit dessin animé. C'était dans un cocotier. C'était ça. Il y avait un petit gugus qui bougeait. Il y a toujours une histoire avec une. Il y avait quoi? Ça tombait.
Un palmier.
Alors, un palmier.
Déjà, le début, c'est le soleil qui s'écrase sur le sol.
Ouais, c'est ça.
Et après, qui reprend sa place. Et donc, tu n'avais qu'un seul palmier et le but de tous les personnages, c'est d'être le seul à être en haut du palmier.
Ah, c'était rigolo. C'était bête, mais enfin, ça devait couper. Je m'en dis, ça devait juste avant un programme pour boucher les...
C'est ça, c'était un interlude.
Ah, c'était marrant. Moi, j'aimais bien. Ouais.
Tu te rappelles du nom?
Non.
Coco Shaker.
Coco Shaker, oui, je n'aurais pas retrouvé.
Ouais. Ah, j'ai dit, tiens, il y a longtemps qu'on ne l'a pas entendu, on va le mettre un petit peu.
Ah ouais, puis ça détend.
Oh, oui. Ça rappelle de bons souvenirs, c'est surtout ça. Bien, nous avons déjà un petit message.
Déjà ?
Régis qui nous dit « Je vous souhaite une bonne soirée. Que va-t-on découvrir ce soir ?»
Régis, il va falloir rester connecté tout le long de l'émission pour le savoir.
Oui, parce qu'il va y avoir plein de souvenirs et en même temps une petite pépite.
Oui.
On aura ça dans le courant de l'émission. Nous allons déjà commencer par un hommage, et parce que nous avons perdu deux acteurs marquants de notre enfance et adolescence. Le premier, c'est il s'appelle Hikaru Kurosaki, décédé le 2 juillet 2026, et c'était l'acteur qui faisait Jaspion. Donc Jaspion, c'était tous comment on pourrait appeler ça? Les Metal Heroes, un peu comme XOR d'ailleurs. Donc il y avait toute une série, tu avais Jaspion, tu avais Spilvan, c'était tous ces genres de héros. Donc il vient de décéder. La série est arrivée en 1988, ce qui ne nous rajeunit pas, le 31 août, dans Dorothée Matin, sur TF1. Et le deuxième hommage, eh bien, on vient de parler de XOR, eh bien, c'est l'acteur Kenji Oba, qui vient de décéder le 6 mai 2026. Alors, lui, on l'a connu au début comme cascadeur, parce qu'il faisait les cascades dans la série Sankukai. D'ailleurs, dans l'un des épisodes, il joue le rôle d'un villageois. Ouais, c'est une des rares fois dans la série où on le voit à visage découvert.
Ouais.
C'est lui qui faisait donc ses propres cascades aussi dans XOR. Et il s'est arrivé en France le 26 octobre 1983 dans Recréa 2.
Alors, il a même fait une super carrière, parce qu'après, on l'a retrouvé dans les Tarantino.
Oui.
Et dans Kill Bill. On l'a vu jouer dans les Kill Bill, l'acteur de XOR, mais beaucoup plus vieux, évidemment. Et ça, c'est marrant. Et ils ont fait des XOR beaucoup plus modernes, qui n'ont même pas 10-15 ans. On les retrouve facilement sur YouTube. Hein. Tu vois vraiment des films entiers, quoi. C'est carrément des histoires de une heure et demie, quoi, que tu peux retrouver. Avec les costumes remis un peu au goût du jour, forcément, qui font plus métaux ou métal, je sais pas comment on peut dire. Donc voilà, et c'est vraiment amusant à regarder, quoi. Avec de bons, ils inventent jamais grand chose, hein, mais j'étais un très très grand amateur de XOR. Moi, j'étais un grand grand fan de XOR.
Ouais, de la des trois, puisque tu avais une série de trois, tu avais XOR, tu avais Charlie Van et Capitaine Shredder. Ouais. Donc les trois c'était lié. Et des trois, c'est quand même XOR le meilleur parce que en plus des combats, il y avait surtout de l'humour. Ce qu'il n'y avait pas dans Charlie Van et dans Capitaine Shredder.
Alors moi, ce qui m'éclatait, c'est qu'il y en avait une version rouge. Donc quand t'es gamin, tu dis ah bon, il peut y avoir une version rouge, donc c'est Charlie Van. Hein,
c'est Charlie Van et Capitaine Shredder, c'est le bleu.
Alors je me disais, ouais, c'est super, on peut varier le truc. Et moi, ça m'épatait quand t'es gamin, tu sais, hein, rien t'épate, tu dis ah bon, on peut prendre la même chose, mais la bouger. Et moi, j'avais l'album Panini. Oui. De XOR, vraiment j'avais toutes les images et c'était vraiment, ça rigolait pas quoi. Et c'était vraiment important cet album Panini. Je sais pas si des gens ont eu que l'album Panini de XOR, ils peuvent nous le dire. Moi j'ai aussi 45 tours, forcément on peut pas ne pas y faire allusion parce que c'était quand même un chanteur qu'on connaît tous qui l'a chanté.
Et oui, XOR c'est Jean-Pierre Savelli, alias, connu notamment pour être Peter de Peter et Sloan.
Et il a chanté ça, il en avait un peu rien à taper. Et honnêtement, c'était un peu de l'alimentaire pour lui. Comme il avait chanté le deuxième générique d'Albator, Albator 84. Mmh. Il revient, Albator, le capitaine. C'est la deuxième version, quoi. Il y avait Albator 78, Eric Chardin, et puis lui, il a fait en deuxième, quoi. Donc, ouais, je suis prêt à parier.
Sûr.
En tout cas, c'est lui qui l'a écrit sur Eric Chardin, l'a écrit avec. Et même, il l'a écrit avec Barbe Livien.
Oui.
Ce qui est assez marrant.
Alors. Parce que. Ça, oui, pour Eric Chardin, lui, c'est lui qui l'a écrit. Et, parce que déjà, Albator, ça n'existait pas.
Non.
Quand c'est arrivé en France, le vrai nom de Albator, c'était Capitaine Harlock.
Ouais.
Sauf que quand c'est arrivé en France, ils se sont dit, Capitaine Harlock, ça ressemble de trop à Capitaine Haddock. Les petits Français, ils vont se mélanger les pinceaux dedans, c'est pas la peine. Donc, ils ont décidé de changer. Et Eric Chardin était ami avec un joueur de rugby qui s'appelait Balator. Surnommé l'Albatros, parce que quand il faisait la remise en jeu, on avait l'impression qu'il volait dans les airs pour attraper le ballon. Et donc voilà,
tout
Albatros, Balador, ça donnait Albator.
C'est rigolo ça. Hein. Mais il y a toujours des noms comme ça, les Français, c'est comme Goldorak avec Mandrak, tu sais, et Goldfinger, ouais. Donc ouais. C'est amusant. Mais les Français trouvaient des noms un peu. Je crois que c'est l'acteur français qui faisait la voix du professeur Procyon dans Goldorak, qui trouvait la plupart des noms, Gordo, Fulgur, tous ces trucs-là, Astéroïde, c'est lui qui a inventé ça.
Alors Michel Gatineau, c'était le responsable de tout le staff, comme on dit.
Du doublage, quoi.
De doublage. Alors, et comme tu dis, c'est lui qui a inventé tout le vocabulaire de Goldorak. Que ça soit le nom des vaisseaux, ou que ça soit le nom des armes, corneau fulgur, cerveau fulgur, fulgur au point, stéréoH, rétro laser, tout ça, c'est lui qui les a inventés.
C'est marrant, et ils étaient créatifs les gars, puis à l'époque, ils t'auraient pas dit, oui mais c'est pas mon boulot, j'ai qu'un sapard. Non, les gars, ils participent au truc, c'est ça qui est marrant.
Et ça va même encore plus loin, parce que le vrai nom de Actarus, c'est Duke Fleed. Et il n'y a qu'en France que tous les personnages de Goldorak portent le nom d'une étoile ou d'une planète. Vénusia, c'est Vénus. Rigel, c'est une étoile. T'as Antares, qui fait partie de l'équipe de Procyon. C'est dans la constellation du Scorpion.
Oui.
Donc Actarus, c'est une étoile. Donc Rigel, bon, c'est dans la constellation du Chien, si j'ai bonne mémoire.
Alcor, non?
Alcor aussi. Mizar, tout ça, c'est que des noms d'étoiles.
Ouais, mais c'est ça qui est amusant, c'est que rien, on nous plaçait un peu de pédagogie à l'époque, il y avait un peu de ça, quoi.
Oui.
C'est plus comme, bon, maintenant c'est plus pareil, il faut que ça sonne bien à l'oreille, c'est autre chose. C'est moins pédagogique.
Mine de rien, ouais, tous les dessins animés qu'on avait à notre époque, ouais, c'était ça. Discrètement, ils nous faisaient réfléchir un petit peu et nous inculquaient des choses.
Ah ouais, c'est marrant. Et là, tu nous as prévu quoi alors?
Eh ben déjà, donc l'hommage à Jaspion et à XOR.
Yeah. Alors oui, XOR, surtout XOR. Moi, je l'ai eu 45 tours à l'époque où ça coûtait peut-être 15 francs, peut-être, quelque chose comme ça, ou 19 francs, ça devait être. C'était, ouais, et à l'époque, quand tu avais un 45 tours, t'en profitais vraiment, quoi. C'était le truc. Moi, j'ai ma femme, Sephora, elle me racontait, elle avait toujours les nouveaux 45 tours qui étaient dans Hit Parade, tu vois. Mais un 45 tours, c'était un achat. Maintenant, on a ça sur un Spotify, comme on veut, sur YouTube, tout ce qu'on veut, et c'est normal. Mais à l'époque, l'objet comptait. Quand on achetait un 33 tours, on passait du temps à écouter la musique, mais aussi à la lire. Et il y avait c'était un vrai livret qui accompagnait. C'était une autre approche. C'était un moment important.
Puis le terme de lire, tu l'emploies très bien parce que non seulement on lisait le disque, mais sur les pochettes, tu avais des fois les paroles de la chanson ou l'histoire de la chanson.
Oui, c'est ça que je voulais dire, hein, vraiment, puis avec les petites blagues et puis même les anecdotes de studio et puis les j'adorais ça. Moi, j'avais un album de Paul Naref que j'ai tenu, que je lisais, que j'écoutais en boucle et deux même, et à chaque fois, c'était je relisais les commentaires de Paul Naref qui mettait des petites blagues sur les petites choses. J'aimais bien, j'ai l'impression d'être un peu dans les coulisses.
Eh bien, donc on va rendre notre hommage à Jaspion et Xor.
Ouais.
Tu te bats pour la liberté, pour préserver la paix, l'amitié, à la recherche d'un monde de beauté. Tu es un aventurier, champion, courageux chevalier. Champion, tu feras triompher. Champion, le bonheur et l'amitié, l'amour et la liberté. Tu n'as jamais peur de personne, et lorsque l'on dit con, tu es toujours prêt et plus rien ne t'effraie. Ton obsession c'est de gagner. Champion, courageux chevalier. Champion, tu feras triompher. Champion, le bonheur et l'amitié, l'amour et la liberté.
Toi, tu viens de souffrir parce que je te l'ai chanté en même temps en
ah,
studio.
Oui.
Hein, là,
j'ai
je eu la connais par cœur. Je la connais par cœur. Hein, j'ai 54 ans, je la connais par cœur. Hein. Et les paroles, ce qu'on se disait hors micro. Hein,
oui, c'est... oui. Alors, qui a écrit les paroles?
Alors, c'est un peu connu maintenant, mais c'est un certain Paul Persavon. Enfin, c'est le nom d'écriture. Et c'est un certain Antoine de Caunes.
Exactement. Et Antoine de Caunes a aussi écrit les paroles de Clémentine.
Oui. Alors, Antoine de Caunes était un petit... Marie Dauphin, quand même. Mais c'était aussi un pistonné, Antoine Decaune, parce que sa maman, c'était la directrice des programmes jeunesse.
De l'antenne 2, oui.
Voilà. Donc, du coup, ça devait un peu faciliter les choses.
Ça peut aider, en effet.
Ça peut aider.
Allez, on va changer de style.
Oui.
Alors déjà, un petit message, comme quoi tu vois, ça arrive. Aldo qui nous dit « Bonsoir, j'aime bien cette émission. » Ben, c'est très bon goût.
Ah, c'est gentil. Oh. Écoute, puis bon, j'ai ma femme qui m'écoute, donc je suis content.
Bon, ben, c'est bien.
Voilà.
On aura au moins trois
voilà, on a trois auditeurs. Donc, auditeurs. On compte celui de tout à l'heure. Tu es peut-être déjà parti, Marc. Non, je vois. Non, bon, on en assure deux, voilà.
Donc, je disais, on va changer de style. On va aller dans les publicités. Une publicité pour l'huile.
L'huile ?
Oui.
Oh, je le sens bien, là. Je crois savoir. Est-ce que ça ne sent pas la campagne, tout ça ?
Oh, que si.
Ah ouais. Alors, je précise que je ne sais jamais, je devine. Hein. Je précise bien, on ne s'est pas mis d'accord avant. Ce qui montre mon talent.
On va dire ça comme ça.
Ouais. Ouais.
Alors, c'est quelle publicité ?
Epidore ?
Exactement.
Ah, forcément. Ah, j'adorais. C'était extraordinaire, ça. Tu l'entends en deux secondes, tu es dedans, quoi. Si j'ose dire. Enfin, pas dans l'huile, mais...
Ah, oui.
Mais de l'huile.
Ça fait partie des huiles essentielles.
Ah oui. Moi, je travaille en politique, donc les huiles, j'en croise pas mal.
Donc, ce n'était pas les non-essentiels, mais c'est les huiles essentielles.
Ah, tu as remis le couteau à la plaie.
Allez, on écoute ça.
Bonne comme la campagne, Épidore. C'est la bonne huile de maïs, Épidore. Elle aime frire et dorer, et puis elle aime mon corps. Rôtir, cuire, rissoler, Épidore. Les frites sont belles à croquer, Épidore. Et puis vous vivez bien, Épidore. Épidore maïs, c'est bon comme la campagne.
Oh là là.
40 ans la pub, elle doit avoir moins 40 ans. À quel âge cette pub-là ?
1984.
Ah ouais, bon, c'est 40 ans. Bon, bah, on la connaît encore par cœur. Enfin,
ah oui.
C'est flippant, je ne sais pas s'il y en a des zombies ou quoi, mais enfin, moi je la connais encore très bien la pub.
Non, mais
j'ai les images en tête. Hein.
Ça revient à ce qu'on disait à la dernière émission, c'est qu'à l'époque, tu avais de la création. Tu avais la création musique, tu avais la création visuelle.
Ah ouais,
parce
mais
que bon, mine de rien, on va reparler encore du fameux tabouret. Ce n'est qu'un tabouret. Il n'y a rien de plus simple et rien de plus basique qu'un tabouret. Et pourtant, rien qu'avec le tabouret et le aïe, 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 eh ben, ça a marqué une génération.
Oui, c'était oui. Préparation.
Pour y penser.
Oui, c'était excellent.
Il n'y aurait pas eu le gémissement de douleur. Il n'y aurait eu que le tabouret qui bougeait. Ça n'aurait pas eu la même portée. On est d'accord.
Ah, non, mais c'est clair. Mais là, Épidore, tu sais, c'est un peu les mêmes époques que la famille du petit déjeuner. Tu sais, il y avait un côté en campagne, tu avais Clébard qui courait vers le facteur qui était gentil. Le facteur venait squatter à table, il n'y a aucun problème. Tu sais,
esprit très bucolique.
Voilà, très bucolique, la belle des champs. Enfin, tu sais, il y avait une vision de la campagne qui était très sympatoche à l'époque. C'était avant le glyphosate.
Alors, attention.
Oui,
tu m'inquiètes. Je m'en racle la gorge parce
mais là,
ça sent
ton
la
sourire,
pépite.
Il me fait peur. Là.
Là, c'est une pépite.
Et je vais aimer, moi, ou pas ?
Oui.
Bon, alors ça va alors.
Alors, c'est pour une publicité pour un appareil ménager qui date de 1971. La marque, c'était Zanussi.
D'accord.
Je vois que c'est très vieux déjà. Et la publicité est faite par le maître incontesté de la contrepétrie.
Ah oui. Ouais, c'est un
Pierre Rep.
Rep, voilà, chercher son nom. Ouais.
Ah ouais.
Ah ouais, Monsieur à moustache.
Ah oui, on connaît notamment pour le texte des crêpes.
Ouais.
Mais entre autres, ou alors le corbeau et le renard.
Ouais.
Mais il était vraiment le maître du bégaiement, du bafouillement.
Après, il y a eu Pierre Péchin qui a un peu été dans la même lignée quelques années après. Mais pareil, maintenant, c'est des humoristes qui... maintenant, ça passe plus, ça. C'est...
Oui, je me rappelle encore avec Pierre Péchin, son sketch le plus mythique, c'était la dictée.
Oui, voilà. Donc, bon, voilà, c'était... Mais maintenant, tu passes un sketch comme ça, tout le monde quitte la salle, quoi.
Ah, oui. Allez, on va découvrir ça. Tu me diras si tu aimes ou pas.
Qui va vous séduire dans la manif à laver la machine, la Zanussi, c'est de voir sortir votre linge humide non froissé. Il n'y a qu'à appuyer sur le bouton rouge de la Zanussi SL50 anti-froissage automatique. C'est ça, Zanussa ? Si, si, si.
Alors ?
Ah bah, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le comédien, il avait quelque chose à faire sur ce coup-là. Il avait vraiment une espèce de petite prouesse à accomplir, parce que c'est aussi un mini-sketch quand tu regardes. C'était créatif, toujours pareil, quoi. C'est là encore le côté vieux machin qui parle, mais c'était assez créatif, quoi.
Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. À l'époque, il y avait tout. Tu avais la création, tu avais l'imagination, tu avais le savoir-faire et les publicités, ou du moins les réclames, pour dire comme à l'époque.
Jean Mineur, publicité.
Les réclames étaient faites aussi pour distraire. En tout cas, dans les années 70-80, c'était ça. On se rappelle de Michel Leeb. Oh, la vax.
Oui.
On se rappelle de ça. Ou alors, pour les insectes qui font... Hop, et ben voilà, tout le monde se rappelle de ça.
Il y avait le jaune et il y avait le vert.
Exactement.
Voilà. Je ne sais pas si on a le droit de dire le nom. Je me fie.
Ouais, c'est l'émission. Ce n'est pas une émission pour faire des pubs. C'est une émission... reportage. Donc
on peut le dire, c'est Bégon. Mais c'est vrai que c'est amusant parce qu'à chaque fois, tu avais toujours des pubs qui se retenaient sur des années et des années et des années. Et je pense que c'est aussi, on les voulait peut-être plus plaisantes parce qu'à l'époque, finalement, c'était nouveau, les publicités, quand tu regardes. Et surtout, les gens avaient des télévisions depuis pas si longtemps que ça dans leur foyer, en tout cas en France. Et je pense qu'on devait les rendre plaisantes, comme tu dis, parce qu'il fallait les accepter qu'ils rentraient dans les foyers finalement de façon un peu non choisi, tu vois, au milieu de programmes télé, d'émissions, de tout ça. Et quelque part, je pense que c'est pour ça qu'on se cassait un peu le postérieur à les rendre attractives, amusantes, et que ce soit un bon moment et non pas le moment où on va se lever pour faire pipi. Bon, après, les pubs n'étaient pas au milieu des films, au milieu des émissions. Donc, il y avait un moment exprès pour ça aussi.
Ce que tu dis, ça me rappelle le sketch des Inconnus, le fameux sketch Manu, tu descends.
Oui.
Où tu as Didier Bourdon qui est donc à l'étage et qui dit « Non, c'est bon, tu déranges pas. » Le film, il a recommencé. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les pubs, c'était pas ouais. Le film.
Et puis, il y a Rambo à la télé. « Ah non, c'est ma mère. » C'est extraordinaire, ça. Ouais, c'est... Le spectacle des Inconnus était aussi drôle que leur sketch à la télé. Il y a des sacrés moments dedans. Hein. C'est vrai qu'on les retrouve encore facilement. Je crois que c'est ils sont, pareil, ça va être sur YouTube, tout ça. On doit le retrouver.
Oui, et notamment le... comment que c'était Télémagouille.
Oui.
On s'en met plein les couilles.
Ah, c'est un grand classique. C'est là.
Il existe même la vidéo, qui est très rare, avec le fou rire de Didier Bourdon. Et Pascal Légitimus est à Bernard Campan qui la regarde et il n'en peut plus. Elle est très rare à trouver.
Alors, mais en fait, les Inconnus, surtout Didier Bourdon, il avait souvent des fous rires, il les contrôlait mal. Il y a des sketchs où on voit qu'il se marre. C'est-à-dire que quand tu le sais, quand ils font le sketch Bioman, mais qu'est-ce qui se passe? Le truc là où ils font du Bioman, tu regardes à un moment donné, il y a une scène, ils sont au-dessus du ravin, tu vois que Didier Bourdon, il se marre, en fait. Alors, il n'est pas mis au premier plan, mais si tu le sais, tu regardes, tu vois qu'il se mord les lèvres, parce qu'ils sont grimés en pseudo japonais. Et tu vois que Didier Bourdon, il se mord les lèvres, comme quand ils ont fait le sketch sur les policiers, tu sais, au commissariat, là, tu sais, qui claquent les portes 6 fois quand ils sortent de la voiture pour qu'ils entendent bien. Puis, tu sais, et en fait, tu vois, c'est Bernard Campan, tu vois, qu'il s'est marré, quoi. Tu vois, qu'il se mord les lèvres et il n'arrive pas à le faire vraiment bien son sketch. Et donc, ça rend le truc sympa, quoi.
Ah oui, c'est vrai qu'il est surpris à plusieurs fois.
Ouais.
On va changer de style, mais avant, on va lire les messages, parce que tu vois que ça arrive, les messages quand même. Romain qui nous dit ces bonnes vieilles pubs, j'adore. Fred qui nous dit bonne soirée à vous, mais à vous aussi. Fred.
Oui, mais on n'est pas encore couché, on a l'émission à faire là. Fred, alors.
Olivier, merci pour votre émission, ça ne nous rajeunit pas.
Eh non, Olivier. Il y en a peut-être qui nous écoutent et qui n'ont pas connu. Il y a peut-être des vicieux qui ne connaissent absolument rien de ce qu'on présente, qui sont nés en 2010 et qui écoutent cette émission. Là, ça me fascinerait là.
C'est sûr qu'il y en a.
Tu crois?
Oui, oui.
Ah bon.
Thérèse qui nous dit le petit rendez-vous du mardi soir. Donc tu vois, ça y est, l'émission est implantée. On a nos habitués.
Merci Thérèse.
Donc merci beaucoup. Donc on va quitter la publicité pour aller dans un générique de série télé.
Ah, là je suis pas mauvais, ça devrait être bon.
Ah oui, surtout si je te dis que la voix... française de l'un des personnages est Dominique Paturel.
Ah, j'étais sûr que tu allais me dire Dominique Paturel parce que c'est soit Dominique Paturel à peu près.
Voilà.
C'est vrai quand il faisait pas Jonathan Hart et qu'il faisait pas Larry Hagman JR ou qu'il faisait pas George Peppard dans l'agence touriste, il les faisait un peu tous quand même.
Donc, c'est bien sûr Dallas.
Dallas. Ah, Dallas, oui. Brie contre Robert ou Dallas?
Non, non, le vrai Dallas.
Dallas, d'accord. Non,
Brie contre Robert, on attendra d'avoir Coco Boy pour le faire.
Ah oui, mais bon, Dallas, oui, c'était vraiment... Dallas, c'est... Alors, moi, j'ai une anecdote, quand j'étais gamin, j'étais romptio, hein, parce que moi, je suis 72, donc Dallas, ça doit être en... Ils ont dû le diffuser dès que 79-80 en
81.
France. 81. Oui, parce que Mitterrand adorait Dallas, c'est connu. Hein. Mitterrand, il se faisait enregistrer les épisodes pour de vrai. Hein. Il prenait ça très au sérieux, Dallas. Ça déclatait. Et je me rappelle, au début, je ne comprenais pas parce que je voyais le programme télé. Et tu avais la photo de Larry Hagman, donc de JR, il y a marqué Dallas. Et moi, dans ma tête de gamin, j'étais ptio, hein, je me disais, mais ah bon, Dallas, c'est lui, donc le mec avec le chapeau de cow-boy. Donc il avait un chapeau de cow-boy, il est en photo, il avait le titre. Pour moi, Dallas, je ne savais pas que Dallas, c'était une ville américaine. Hein, j'étais gamin. Et donc du coup, je comprenais pas parce que j'avais le premier épisode que j'ai vu, il se prenait un pain dans la tronche. Je disais mais attends, le héros il se fait tataner la tête, je comprends pas quoi. Et j'ai compris après que Dallas, mais il s'appelle JR et Dallas à la fois. Je comprenais pas, ça m'a pris deux épisodes à comprendre quoi. Donc voilà, c'était mon enfance compliquée.
Et l'épisode qui a tiré sur JR a rassemblé 80 millions de téléspectateurs dans le monde.
J'en étais.
Ah oui.
J'en étais. Et c'était finalement, on sait qui c'était. C'était la sœur de Sue Ellen, Christine, qui avait tiré.
Voilà.
C'était quand même incroyable.
Eh bien, on va réécouter avec grand plaisir ce générique chanté par le groupe Les Texans.
Yeah.
Soleil implacable. Pétrole.
Ah ouais, on y est, The Sweet Pearl. Ce qui est marrant avec Dallas, c'est que c'est la première note, t'es déjà dedans, quoi. C'est tant, tant. Tu sais qu'il se passe un truc important, c'était fort, ça.
Puis, ce qu'il y a de bien avec ces génériques, c'est que ça vieillit très bien.
Ouais, franchement, ouais.
Alors, autant, comme on parlait il y a quelques émissions, t'as des dessins animés où le dessin, il a très mal vieilli, mais le générique, par contre, il est indémodable.
Ce qui, pour moi, est la définition de 80% des dessins animés de notre enfance.
Oui.
Franchement, pour être honnête.
Mais par contre, tu as des séries télé, tu regardes les épisodes encore maintenant, ça a très bien vieilli.
Ouais, sauf quand ils se tapent dessus. Quand ils se tapent dessus, c'est assez rigolo parce que généralement, tu vois le cascadeur qui a limite pas la même couleur de cheveux, qui tombe, qui n'a pas la même carrure. Quand il se donne un coup de poing, tu vois qu'il tombe. C'est très drôle ça. Mais sinon, oui. Et c'est là que Brad Pitt a fait ses débuts d'ailleurs dans Dallas.
Exactement.
Il jouait le petit chéri de Lucy, si je ne me trompe pas.
Lucy, donc, qui a été jouée par Charlene Tipton.
Ah, ouais.
Et qui. Le fait que Lucy soit à
Southport,
avait l'accent, le fait qu'elle soit là, dans le ranch, ce sera plus simple, eh bien, ça va servir de début pour un spin-off, ça sera Côte Ouest, où Gary est le troisième des fils Ewing. Ouais. C'est celui qui était le moins bien apprécié.
Ouais. Il y en a qui étaient très Côte Ouest, là pareil, ma femme, elle regardait Côte Ouest. Sephora, moi je regardais Dallas. Mais Côte Ouest, j'ai jamais regardé, ça m'intéressait pas.
Bah, moi je préférais Côte Ouest.
Ah ouais, mais il y en a plein qui étaient pour Côte Ouest, tu vois. Alors que moi, Côte Ouest, j'ai jamais regardé un seul. Et pourtant, je me tapais aussi tous les Dynasties. Dynasties, c'était encore mieux que Dallas. Hein. Au début, j'étais très Dallas. Et après, je me suis mis à adorer Dynasties, qui était encore plus, à mes yeux, encore plus grandiose, encore plus fort, encore plus audacieux, encore plus gonflé. Et puis il y avait les acteurs, il y avait encore plus de glamour, il y avait plus de. Puis le générique, pareil, ça démarrait par un truc là. Les premières notes de Dynasty, t'étais dedans tout de suite. Puis t'avais des guests de folie, quoi, dans Dynasty.
Et puis ne serait-ce que les acteurs principaux, voilà, quand tu compares Joan Collins avec Sue Ellen.
Ouais, c'est pas pareil. Voilà. Linda Gray, c'est autre chose. Voilà. Mais tu sais d'ailleurs que John Forsythe, qui jouait Blake Carrington, toi tu le sais, c'est ce qu'il faisait. Moi, je te laisse le dire.
Non, vas-y.
Ah ouais, écoute, c'est seigneur. Mais c'était la vraie voix de Charlie dans Les Drôles de Dames, quoi. Dans Charlie's Angels, Les Drôles de Dames.
Charlie Townsend.
Celui qui parlait dans le fameux interphone, là, qui était 3 années 70, que j'adorais, là. Et en fait, c'est la vraie voix américaine, c'était cet acteur-là, John Forsythe.
Exactement.
Qui jouait Blake Carrington.
Et Christelle Carrington, donc Linda Evans, on l'avait connue dans une autre série. C'était la Grande Vallée, c'était un western.
Oui, et Cowboy. Avec Lee Majors.
Avec Lee Majors.
Et elle est aussi dans une série qui s'appelait Hunter.
Oui.
Avec James Franciscus. Alors, ça, pour se rappeler de cette série, c'est compliqué. Elle n'a pas fait long feu, celle-là.
Et ce qui est marrant dans la série La Grande Vallée, c'est que Lee Majors, pour son même personnage, il va avoir deux prénoms. Au départ de la série, il va s'appeler Keith. Et après, ils vont le changer, ils vont le franciser en Harry.
Oui, bon. Alors,
je ne sais pas pourquoi. Oui, mais voilà.
Bah, pourquoi pas. Mais Harry, ça fait un peu pain d'épices.
Mais pour moi, Dynasty, on pourrait le mettre dans la même catégorie que Santa Barbara.
Ah,
c'était le même niveau pour question des scénarios.
Alors là, il y a des choses que je peux entendre, ça je ne peux pas entendre. Là, il va y avoir un problème entre nous. Je peux quitter un studio pour entendre des trucs comme
même
ça.
Même pas peur.
Non, Santa Barbara, c'est un cran en dessous de Dynasty quand même. Je dis Santa Barbara, c'était pauvre. Il y avait toujours, ça faisait très. Les décors bougeaient pas beaucoup. C'était toujours à peu près les mêmes. Non, c'est Dynasty. Il y avait des trucs extérieurs, il y avait des scènes. Il y avait un autre casting. Non, tu peux pas comparer. Non, sérieusement, là je suis sérieux. Tu peux pas. Il y a des choses que je veux bien entendre. Je veux bien tout entendre, mais pas. Si tu compares Santa Barbara et Dynasty, c'est que tu connais pas bien les deux. C'est impossible. Tu peux pas dire ça. Dynasty, en plus, ils ont eu Rock Hudson, époque d'ailleurs Sidal pour.
Oui.
Non, Dynasty, c'est autre chose. Non, c'était un cran au-dessus. Puis en plus, il y a eu le fameux premier personnage vraiment homosexuel à la télé. C'était
oui, avec
Stephen Carrington, qui était joué par Al Corley au début,
oui.
qui a fait les chansons des années 80 qu'on connaît, Square Room,
tout ça.
Et après, c'était un autre acteur qui a joué le rôle de Stephen Carrington, qui s'appelait, je ne sais plus comment, qui après a joué dans Heroes. Enfin, un acteur qui lui ressemblait un petit peu. Enfin, voilà quoi. Non mais bon, Dynasty et Santa Barbara, si des gens pensent comme toi, qu'ils écrivent, qu'ils disent que t'as raison, on va faire deux teams. On va faire ceux qui pensent comme moi que Dynasty c'est plusieurs crans au-dessus sur tous les plans et aussi au niveau des moyens que Santa Barbara. Et ceux qui pensent comme toi que c'est à peu près pareil.
Non, moi j'avais autant de plaisir à regarder.
Ah non, alors par contre oui, j'avais autant de plaisir.
Regarder Dynasty.
Ah non, mais alors, le plaisir, j'avais autant. Moi aussi, j'avais un plaisir coupable, mais assez assumé. Mais non, j'avais autant de plaisir. Mais Dynasty, c'était un show, c'était un truc plus gros. C'était un truc plus... Et, ça rigolait pas, Dynasty.
Oui, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais n'empêche qu'il y avait autant de plaisir à regarder Santa Barbara que Dynasty.
Oui, alors d'accord, oui, c'est parce que j'ai compris. D'accord, oui, d'accord. Là, je te l'accorde
pour
volontiers.
Ça que je dis, c'est
le point. Le point est pour toi, alors là.
Pour ça que je te dis, c'est au même niveau. Après, quand tu compares les acteurs, oui, forcément, il y a
casting,
un décalage incroyable.
Casting de folie.
On, on est d'accord.
Ouais, là, c'était quand même autre chose.
Déjà, John Forsythe, c'était déjà une sommité à l'époque où il a fait Dynasty. Il n'était pas connu que pour ça.
Je ne sais pas s'il a pas. J'ai peut-être dit une bêtise, peut-être pas. Il n'a pas joué dans un Hitchcock, lui.
Il a aussi participé à des westerns, il me semble.
Ouais. Ah, c'est un peu comme George Peppard dans George Tourist, qu'il avait toute une série de films au cinéma, de, genre Les Aigles Attaquent, des trucs comme ça, des trucs de guerre, un peu. Il était un peu connu pour ça, quoi. Ouais.
On va changer de style, et là, je vais te, vous faire écouter un indicatif. Allez, je vous précise la chaîne, c'était la troisième chaîne.
Facile.
Là, vous allez reconnaître. Alors, ça, c'est pareil, c'est un son qui est culte.
Là, je vois les... C'est celui où c'est, le... c'est quand il y avait le cinéma qui arrivait dans France 3, on est d'accord ? C'était le générique du cinéma.
Alors, c'est les étoiles du cinéma.
C'est ça.
On appelait ça les yeux du cinéma.
C'est ça, vous voyez, les yeux qui se,
c'est ça.
Qui se remplaçaient les uns par les autres. Et on jouait à chercher à... qui c'était, Lorraine Bacall,
un peu
Jean
comme
Gabin.
On appelle ça le morphing.
Oui.
C'était un peu un morphing avant l'heure.
Un maxi-tête.
C'est pas mal ça aussi, oui, comme émission.
Avec Sophie Favier. Tantif Favier sur Canal+. À l'époque où Canal+, balbutiait, il faisait un peu des émissions un peu. Non, je me rappelle de ça. Et moi, j'aimais bien parce qu'en plus, il y avait un présentateur derrière, un journaliste qui présentait le film. Il devait avoir du sang, je sais pas quoi, dans les veines, mais il faisait du 1 à l'heure. Tu te rappelles pas de ça?
Bah, il y a eu Frédéric Mitterrand.
Non, Frédéric Mitterrand, je connais, c'était extraordinaire. C'était les emphases. Non, c'était un gars, je me rappelle pas de son nom. Et il disait, le suis de ce soir va commencer. Tu te rappelles pas de ce type-là? C'était extraordinaire, je ne sais plus où il s'appelait, mais c'était vraiment drôle. Il disait, est un film, ou alors, il va se passer. Moi qui suis un peu speed, j'avais un peu de mal.
On va rester dans les sons cultes. Celui-là, il va te parler plus que les autres.
Oh, tu m'inquiètes.
Non.
Tu ne vas pas révéler des trucs de ma vie privée trop intenses.
Pas tout de suite, non,
pas tout de suite, d'accord. Tu me dis plus que les autres, tu m'inquiètes.
Alors, attention. Rien que ça, je suis sûr que tout le monde en reconnaît.
Je suis pas sûr. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que à ça on reconnaisse. Mais vas-y, je te laisse.
Bah, la linéa, bien sûr.
Oui, bien sûr, la linéa. Mais c'est parce que je pense que les gens reconnaissent plus au truc de la fin, en fait, au petit jingle de la fin, quand il tombait.
Oh, bah, même le petit, comment on va appeler ça, babillement.
Ouais.
Ça, c'est typique de la linéa.
Ouais, mais plus la fin, c'est quand il tombait, il faisait baboum, 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 le truc comme ça. Je crois que ça allait plus encore avec le truc, à mon avis. Mais bon, peut-être pas. C'est italien, ça.
Oui, exactement. Et on va rechanger encore de style, tu sais que j'aime bien. Une petite pépite, chanson très 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 rare de Marie Myriam, qui s'appelle « Sur ma planète ». Ça date de 1984 et elle a tout à fait sa place dans l'émission. Parce que quand vous allez écouter les paroles, elle parle justement des grands noms des dessins animés. La la.
Sur la planète aux enfants.
c'était Marie Myriam.
Avec le petit, truc derrière, là, des 30, oui. 45 tours, là. Le petit crépitement.
Bien le crépitement. Ah. J'ai adoré quand j'ai entendu cette version-là.
Ah bah oui, je pense.
Tiens, celle-là, il nous la faut.
Marie Myriam, qui est vraiment une chanteuse qui était assez, enfin, qui est extraordinaire. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle chante encore maintenant, mais elle a vraiment des très, très belles chansons. Moi, j'écoute tout le temps une Nostalgia. Elle avait refait une reprise de Lance Perfume qui est vraiment superbe. Mmh. Et puis plein d'autres chansons. Mais comme un enfant aux yeux de lumière, bon, ça paraît tarte à la crème. Mais quand tu l'écoutes vraiment, elle est super, cette chanson.
Ouais, Étrangère au paradis, Sentimentale.
Ouais. Alors, Étrangère au paradis, pour moi, ça reste chèque.
Ouais, version disco, mais sa version, elle est belle.
Non, mais moi, j'adore. Mais c'est parce que je sais qu'il y a un côté too much, quoi. Non, je suis très fan. J'aime beaucoup le too much, parfois. Écouter, c'est très drôle.
On a des petits messages, tu vois, par rapport à l'alinéa, justement.
Ah.
Bruno, qui dit, oui, l'alinéa. Hervé, oui, c'est l'alinéa. Tu vois que rien qu'avec le son, ils avaient trouvé. Chris, l'alinéa, mais comment est venu ce concept?
Ah, ça, c'est une bonne question.
On fera des petites recherches là-dessus.
Ouais, parce que j'avoue que je n'ai pas la connaissance de la chose.
Mais c'était minimaliste au possible, parce que c'était juste un trait fait au stylo craie, crayon craie, on va dire. Et ça marquait des générations.
Mais moi, ce que j'ai dit dans une précédente émission, moi, je fais des dessins à côté, j'ai des activités de bande dessinée, de dessin, et j'ai eu une vocation qui est née parce que beaucoup d'émissions tournaient autour du dessin. Quoi. Il y avait ça, il y avait Gribouille, il y avait Cabu à la télé qui dessinait. Et donc l'alinéa et tout ça donnait envie de prendre un crayon et de s'y mettre.
Exactement. Après, ça marche ou ça marche pas. Hein.
Oui, mais tu sais, si tu commences, c'est mieux que si tu commences pas. Quoi.
C'est pas faux. On va changer de style avec un générique de dessin animé.
Ah.
Les voix, Roger Carrel, entre autres.
Oui, bon, c'est du Hanna-Barbera, alors, non?
Exactement.
Forcément, c'est l'époque Hanna-Barbera. Parce que c'était un peu ça qu'on avait le droit, nous, hein, quand même beaucoup de...
Principalement, oui.
Ouais, c'était quand même beaucoup ça, quand même, à la télé. Tous les Scooby-Doo...
Roger Carrel, c'était Michel Roux, pardon.
Michel Roux, oui. À la voix?
Oui.
Un dessin animé avec Michel Roux?
Oui.
Alors bon, on sait qui fait amicalement vôtre.
1976, dans Les Visiteurs du Mercredi. Si je te dis que c'est un chien qui fait le ménage dans un commissariat...
Oh, mais tu sais que j'allais te le dire, ce ne serait pas aussi un karatéka à ses heures perdues?
C'est ça.
Et il ne rentre pas dans un tiroir pour se transformer?
Oui, et il est obligé d'attendre que son chat tape sur le haut du casier métallique pour pouvoir sortir.
Et ça paraît pas Hong Kong Foufou?
Exactement.
En tout cas en France.
En France, oui, parce que le vrai nom, c'est Hong Kong Foué.
Oui, parce qu'en Hong Kong Foufou, il faut le chercher. Quoi.
C'est ça. Mais c'était excellent.
Puis moi, quand j'étais gamin, enfin, je sais pas toi, mais on est à la même époque, le karaté, c'était culte. J'ai l'impression que les gens qui faisaient faire du karaté, qui savaient faire du karaté, ils avaient un pouvoir. J'ai l'impression, enfin, puisqu'on n'y connaissait rien, tu sais, le mec, il levait la jambe.
Ouais, c'était des super.
Je sais pas si tu revois des Chuck Norris maintenant, quand tu vois les coups de pied qu'ils donnent, t'es mort de rire, parce que c'est pas crédible, en fait. Mais à l'époque, le karaté, on était fous de ça avec Bruce Lee et compagnie. Quelqu'un qui faisait du karaté, c'était magique.
Exactement.
Même dans un dessin animé.
Eh bien, non, on va écouter Hong Kong Foufou.
Excellent.
Et juste après, ça sera encore un dessin animé, mais cette fois un grand classique, Booba, le petit ourson, chanté bien sûr par Chantal Goya.
Excellent.
Qui est donc ce super-héros? Sergent? Non. Rosemary, la téléphoniste? Non. Perry, le planton du commissariat?
Ça se pourrait.
Chemin de ta maison. tu chantes à tue-tête. Bouba, bouba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Bouba, bouba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, forestier John, et surtout ta Oklahoma, te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit indien, restera ton meilleur copain.
Bouba, bouba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige.
Allô, c'est la Noiraude. Je voudrais parler au vétérinaire.
Ne quittez pas, je vous le passe.
Allô?
Bonjour, docteur. La Noiraude à l'appareil.
Bonjour, la Noiraude. Qu'est-ce qui ne va pas encore?
Alors?
Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la question. La Noiraude, extraordinaire. La Noiraude, ça, c'est pareil, c'est dans les esprits. Quoi. Ça racontait pourtant rien, la Noiraude. Quand tu regardes, c'était...
Oui, c'était basique au possible.
Raconte-moi une histoire, la Noiraude, c'était impossible.
Là. Là, par exemple, l'extrait où j'ai eu le début de quand le téléphone, c'est parce qu'elle appelait le vétérinaire pour savoir comment faire pour se débarrasser des mouches. C'est pour ça que tu entendais le bzzz.
D'accord.
Donc, ouais, oui, c'était basique au possible. Mais ça a marqué des mémoires comme les trois quarts de ce qu'on a connu de notre enfance.
Ah, la Noiraude.
C'est pour ça qu'on s'en rappelle encore maintenant, ouais. D'ailleurs.
Ouais, c'est fort la Noiraude parce qu'en fait, on s'en souvient, on ne peut pas trop dire de quoi ça parlait. Quoi. Finalement, on entendait qu'il se plaignait, mais bon... Non, c'est très fort la Noiraude, c'est vrai que c'est ça et Téléchat, c'est les deux trucs qui restaient en visuel, tu vois, ça me restait oui. En...
Téléchat avec les fameux gluons.
Ouais, gluons du micro, gluons de je sais pas quoi, gluons du stylo.
Ouais, Micmac, le micro, t'avais Brosse dure, le balai.
Non, mais quand tu regardes, visuellement, ils se retenaient, quoi, tu vois, la Noiraude, c'est vraiment un... Parce que moi, je me suis amusé à la redessiner, la Noiraude. C'est simple, c'est une efficacité, c'est incroyable la Noiraude. Et les dessins sont sympas la Noiraude.
Et à la même époque, tu avais Engrenage aussi, qui était pas mal.
Ah, j'adorais. Oui, nous sommes les engrenages, nous ne sommes pas sauvages. Les engrenages, ils ont grand cœur, mais de moi, ils ont grand peur. Je peux te la chanter entière.
Voilà, je vois, ça aussi, c'était basique. Ouais. Ça a marqué bon nombre de personnes.
Ah oui, bah, la preuve.
On va rechanger de style.
On n'arrête pas en fait, mais comment veux-tu qu'on arrive à s'attacher aux choses? On change tout de suite. Moi, je suis un cœur qui se brise à chaque nouvel extrait.
Oui, mais il se reconstruit à l'extrait d'après, donc c'est pas grave.
Oui, c'est pas faux, c'est pas faux.
Si je te dis The Fabulous Five.
Oh, yeah, Five. Five? Oui.
Oui.
Attends.
Le club des cinq.
Ah oui, d'accord, parce que je pensais au Quatre Fantastiques au début.
Non, c'est Fabulous Four.
Oui, qui ne s'appelle pas comme ça d'ailleurs. Le club des cinq, oui, c'est ça, c'est les oui. Quatre Fantastiques, mais ils n'avaient pas les mêmes noms. En fait, c'est ça l'astuce, c'est que nous, hein, ils avaient des prénoms français, et c'est pas eu tous ces prénoms-là dans la version originale.
Comme beaucoup de séries ou de dessins animés, tu prends par exemple le collège Foufoufou, oui. Où les trois quarts, ils ont des prénoms français. Tu prends Ranma un demi, il y a des prénoms français. Alors que, en fait, c'est censé être au Japon. Quoi.
Mais est-ce que Dagobert avait le même nom dans les deux versions?
Ah, ça serait à chercher.
Moi, j'adorais le générique. J'étais pareil, j'étais gamin et je le regardais. Je dis, ouais, il y a de l'action. Parce que tu vois, il y a un qui passait avec un vélo. Puis il y en a un autre qui tombait d'une barque. Et là, oui. L'image s'arrêtait juste au moment où il touche l'eau. Et je dis, ouais, il y a trop de l'action. C'est puis c'était ce principe des Goonies, finalement. Même si c'est pas le même. C'est anglais, hein, les clubs des cinq. Mais c'est le principe de. les gosses, tu as l'impression que tu aimerais faire partie de leur bande, quoi. Tu t'y croyais un peu, quoi. Et Enid Blyton, c'est la créatrice de...
Oui.
C'est ça.
Tout à fait.
Qui n'était pas une personne très sympathique, d'ailleurs.
Je sais pas.
J'ai vu une biographie sur elle, un film fait avec l'ancienne femme Tim Burton, comment elle s'appelle, qui est jouée dans Harry Potter, qui est une femme géniale. Enfin, bon, bref. Elle joue son rôle et on voit vraiment qu'elle n'était pas sympa du tout comme dame. Elle a d'ailleurs fini avec un Alzheimer, mais ça, c'est aucun rapport. Elle n'était pas très sympa parce qu'en fait, elle s'était séparée de son mari qui était parti avec une autre femme. Et pour se venger, elle l'empêchait d'éditer ses livres, le gars. Comme elle était une grosse vendeuse de livres, la maison d'édition ne pouvait rien lui refuser. Elle disait, si vous voulez garder mes livres à moi qui cartonnent en librairie, vous ne devez pas éditer mon ex-mari. Non, elle était particulière. Puis elle n'était pas fan des enfants, en fait. Ce qui l'empêchait pas de faire des bouquins fabuleux.
Oui, la preuve.
Voilà, excusez-moi, j'ai gâché le rêve. Là.
Non.
Je reviens pas la semaine prochaine, c'est ça?
La voix de Oui, c'est Brigitte Lecordier. Et Brigitte Lecordier, on la connaît notamment pour être la voix de Sangoku.
Et d'Esteban aussi, non?
Non, c'était Jackie Berger.
C'était Jackie Berger, oui, c'est ça. Oui. C'est ça, j'ai partagé ça à deux. Hein. C'était soit l'une, soit l'autre. Hein.
Mais ouais, Brigitte Lecordier, d'ailleurs, tiens, elle a été embauchée pour refaire des messages d'annonce, pour faire patienter sur les quais, pour pas citer la société, mais pour faire patienter sur les quais et annoncer à quelle voie allait arriver le moyen de transport. Elle a été embauchée pour utiliser sa voix façon Sangoku pour faire les annonces.
D'accord.
Ça, c'est pas mal.
Ah, c'est rigolo. J'attends de voir quand même.
Ouais, j'ai écouté. Franchement, ça rend bien.
Ah bah tant mieux, c'est cool.
Allez, on écoute ça,
Oui, obligé.
Mais avant, un petit message. Véronique, bonsoir à vous deux. Bonne émission à tous. Nous, on adore.
Merci beaucoup, Véronique.
Allez, c'est parti pour les Fabulous Five. Yves Régnier, Edouard Mix.
Les Globetrotters.
Ça, c'était bien.
Oui, mais je ne sais pas si les gens s'en souviennent vraiment de cette série-là. J'ai un doute parce que chaque fois que j'en parle, les gens n'ont pas l'air de comprendre de quoi je leur parle.
Et pourtant, ça avait quand même très bien marché. C'était la deuxième série qui a fait connaître Yves Régnier. La première, c'était Belphégor.
Je crois même que c'est passé avant Belphégor, tu vois, donc... Non, mais je croyais, mais je n'ai pas une connaissance, je croyais que, tu vois, bêtement.
Mais
quoi.
Il me semble que Belphégor était avant
Globetrotter.
On va retourner dans la pub.
Ah.
Alors là, c'est pareil, ça va parler à beaucoup, j'ai même pas besoin de parler. Rien que quand je vais le diffuser, vous allez redevenir un tout petit enfant avec un petit ourson dans les mains.
Oh.
C'est un kiki que tu as là, mon coco?
Oui.
Oh, il est kiki, ton kiki.
Merci.
Où il est, ton kiki?
Ici.
Qui c'est qui fait coco, son kiki?
Lorsque vivaient l'éponge, ou l'algue et le corail, de la roche, elle naquit. Du secret de la nuit, légère, elle s'échappait, soleil et feu volaient. Mesdames et amis, mesdames et amis, voilà presque 100 ans qu'elle a jailli de terre, jailli du fond des mers. Passant par la Lorraine ou venant d'Aquitaine, elle salue les amis. Mesdames et amis, sous les sentiers, la rivière ou les bois.
Métanie,
elle enfouit pour l'hiver des tas de provisions au plus profond des champs.
Métanie, 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 Métanie,
elle arpente la ville à grands pas d'énergie, de l'école à l'usine. Fait le tour du logis, bondit à la mairie et plonge à la piscine.
Mesdames, 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 mesdames,
elle est gaz naturel, deviendra GNS et peut-être hydrogène. En espérant demain, tout le long des chemins, elle salue les
Mais tu te rends compte de l'époque où on faisait un dessin animé sur le gaz naturel avec un petit personnage qui a une espèce de petite flamme bleue là de méthane. Tu te dis, mais c'est incroyable, tu peux plus faire ça de nos jours, quoi. C'est surréaliste. Bon, je me rappelle que c'était assez chiant, honnêtement, quand j'étais gamin, j'avais pas tellement envie de m'instruire, pour être très honnête. Et je regardais ça, c'était le Récréa 2, si je me trompe pas, l'après-midi, le mercredi après-midi. Et je regardais ça d'un air un peu paresseux, quoi. Parce que c'était très pédagogique, ça expliquait le gaz naturel et tout. Et moi, j'avoue que c'était pas sur le dossier, quoi.
Oui. Et t'avais l'équivalent pour l'électricité qui s'appelait Zeltron.
Oui, mais ça a moins marqué. Mais il faut dire, ouais, que comme toujours, ça dépend aussi du générique. La chanson générique est plus sympa.
Exactement.
Et mais c'est pas Michel Legrand qui a écrit ça, je me demande.
En tout cas, ça sonne bien comme Michel Legrand.
Ça fait un peu, un peu le côté comme ça.
Et juste avant, c'était la publicité pour Kiki, le Kiki de tous les Kiki.
Oui, mais tu sais que sans l'image, avec juste le son, c'est confusant ton truc. Faudrait prévenir les gens des fois.
Il y a un petit message. Véronique, pour Léa, qui écoute et qui répond à tout, on sait de qui elle tient, tel père, telle fille.
Ah, eh oui, là, ça sent le règlement de compte, là.
Non, je lui ai transmis le virus des dessins animés de mon enfance. Et elle a 19 ans et elle regarde. Elle ne regarde pas les dessins animés de maintenant. Elle regarde Tom Sawyer, Montana Jones.
Non, et comment va sa thérapie sinon, je veux dire, ça se passe bien pour elle?
Tant que le médecin il a.
Ouais, là, c'est ça, c'est au niveau des cachets, ça se passe comment?
Non, mais maintenant c'est un intraveineuse.
Ah, là, je comprends. Là, il y a quand même une volonté de te plaire, à mon avis.
Mais voilà, je lui ai transmis ça. Et pour ça, on parlait déjà hors antenne, comme quoi les jeunes de maintenant, ils ne s'intéressent pas aux vieilles séries, que si on leur présentait, ils trouveraient ça nul. Bah, Léa, elle aime Tonnerre Mécanique, elle aime les Mystères de l'Ouest.
Ah oui, alors, mais bon, quand même, je pense qu'elle fait un peu figure d'exception, parce que maintenant, de nos jours, moi, les Mystères de l'Ouest, j'adore, mais quand je les regarde, je vois à quel point il y a quand même des trucs qui vont pas, ou elle cascadeur, je te dis, puis même, des fois, le scénario est un peu foireux. Moi, je sais pas si tu as revu récemment Mystères de l'Ouest, mais j'adore Robert Conrad, James West, il était fabuleux, hein. Mais quand tu vois donner un coup de poing et que tu vois 6 mecs qui tombent, et il n'y en a pas un qui se relève, et donc tu te dis, bon, ça c'est réglé, c'est extraordinaire. Moi, les Mystères de l'Ouest, j'en ai revu il y a pas longtemps, les bagarres, t'es mort de rire.
Oui.
De rire. Et j'adore Robert Conrad, c'était un mec fabuleux. Il y avait toujours un moment où il se faisait assommer, il se réveillait torse nu, les mains attachées.
Le but de la série, c'était le voir torse nu.
Et tu avais toujours une élève qui venait lui rouler un gros palot en même temps qu'il lui passait un truc pour qu'il puisse se détacher. C'était drôle, j'adorais. Moi, j'adore. Gros fan.
On va rester dans les dessins animés. Si je te parle de Dracula, de la momie.
Ah oui, alors là, tu me fais plaisir, tu fais exprès. Là. C'est pour moi, ça. C'est le croque-monstre chaud.
Exactement.
Les vilains pas beaux.
Elle ne m'en regarde pas quand tu dis ça.
Non, mais trop tard, c'est fait.
Ah, ben voilà. Et juste après, ouais, on va dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Juste après, ça sera deux enfants qui prennent le bateau avec leur maman. Leur maman qui va décéder pendant le voyage de la typhoïde.
Oui, c'est pas rigolo. C'est bien un dessin animé de notre époque, ça. C'est
non,
rien que déjà une série télé, mais c'est déjà l'esprit de ce qu'on a connu. Forcément, la maman décède, c'est normal.
Typhoïde ou typhus?
Oui, enfin, c'est pas très important.
C'est une des deux.
C'était pas, c'était pas le Covid, en tout cas.
Voilà. En tout cas, donc ils perdent leur maman pendant le voyage et ils vont se retrouver au Canada pour aller retrouver leur oncle.
Oui, 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 tout à fait.
Bien sûr, de quoi je parle.
Oui, oui, tout à fait. C'est Nous sommes à Tejeni.
Exact.
J'adorais. Et tu sais que la chanteuse.
Isabelle Peruzza.
Elle a fait une carrière. Hein. Bon, elle existe encore de nos jours. Hein. Oui. Et cette chanteuse-là, elle a fait des chansons avec Dave Stewart. D'Eurythmics. Elle a fait une carrière assez étonnante.
Oui. Et on a, nous, dans la médiathèque, des chansons d'Isabelle Peruzza, autres que Matt et Jenny.
Donc voilà, une qu'elle a faite avec Dave Stewart.
Allez, c'est parti pour les croque-monstres chauds.
Yes.
Le croque-monstre chaud, c'est des vilains pas beaux. Dans la vie, il n'y a rien qui nous ressemble. Au palais des horreurs, on joue à se faire peur. Pour trembler, il vaut mieux qu'on reste ensemble. Il y a le grand bonhomme idiot qui sourit. Des sorcières qui s'amusent en cœur. Le lion farceur et la momie. Le vampire chic et le fantôme baladeur. Le croque-monstre chaud, c'est les vilains pas beaux. L'aventure, c'est toi qui la partage. Hey, tu vas craquer, mais il faut t'accrocher. Et je sens qu'on va s'éclater. Un croque-monstre a dit, il n'y a rien dans la vie de plus chouette que d'être des glandules. On est fêtes et méchants, et on croque à tout vent. Des glauques, des glauques et des pendules.
Blonde qui est si jolie.
Et des dragons cracheurs de feu. Les trois gamins et la chauve-souris. Le dinosaure si fort mais malheureux. La momie a parlé, mais il faut l'arrêter. On ne peut plus compter sur elle. Elle cherche à tout moment le vampire insolent qui pourrait changer son ruban. Le croque-monstre chaud. Le croque-monstre chaud, c'est les vilains pas beaux. L'aventure, c'est toi qui la partage. Hey, tu vas craquer, mais il faut t'accrocher. C'est beau le croque-monstre. C'est beau le croque-monstre chaud.
Jenny,
De harpe à la fin, là, ça finit, ça t'achève. Tu vois. Non, j'adorais cette chanteuse, je trouve qu'elle a une voix remarquable. Quoi. C'est vraiment très mélodique, très mélodieux. On ne prenait pas les gamins pour des. Enfin, on ne se moquait pas d'eux.
À chaque fois, c'était des belles voix. On en a notamment Marie-Myriam. Voilà.
C'est vrai.
Une
hein.
de nos plus belles voix françaises.
Ouais, franchement, oui. Nils Holgersson.
Entre autres. Ouais.
Oh, ça le mettra, ça.
Mais, ou Candy.
Candy, ouais. Ouais, mais je n'aimais pas Candy. Bref.
Mademoiselle Tache de Son. C'était le surnom de Candy. Avec Terence Grandchester, surnommé Terry.
Ah, et qui finalement était quelqu'un qu'on ne savait pas qui c'était, mais que c'était quelqu'un qu'on ne croyait pas, mais que c'était quelqu'un d'autre en fait. Il y avait une astuce.
On va changer de style, mais toujours dans les émissions. Si je te dis que cette émission a causé la mort de beaucoup d'intercalaires en plastique.
Ah! Ouais, je vois. Alors là, c'était bien, bien ringardus. Moi, j'adorais, mais c'était, il n'y a que notre époque pour avoir fait ça.
Ah oui.
Donc, je te laisse donner le nom.
C'était Teletactica.
Alors ça, c'était extraordinaire parce que on pouvait aussi l'acheter dans le commerce. Hein.
Oui, il y avait des pochettes qui existaient. Donc, c'était des formes géométriques qui se collaient sur l'écran par électricité statique.
Ouais, c'est ça.
Et bon, après, celui qui ne voulait pas acheter, il prenait simplement les intercalaires pour l'école. Ça faisait très bien son...
Alors, en fait, l'astuce, c'était genre, il faut qu'on s'envole dans une montgolfière. Et puis, alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait une espèce d'espace où il y avait des pointillés. Tu faisais mettre la forme ronde qui faisait un peu le dessus de la montgolfière. Puis, quand tu étais gamin, tu disais, ah bah oui, si j'ai pas mis ça, ça décolle pas. Bon, évidemment, quand tu le mettais pas, tu voyais que ça décollait pareil. Mais l'idée, c'était ça, c'était interactif. Enfin, c'était l'interactivité avant l'époque. Mais bon, ringarde à 4000%, c'est l'équivalent du Minitel en termes de ringardisme. Mais tu avais des rectangles, genre, pour faire un bout de locomotive ou je sais pas quoi, ou un pont, nous ne pouvons pas passer. Tu avais une espèce de grosse tige qu'il fallait que tu rajoutes au papier sur l'écran et du coup, ça marchait. Quoi. Et donc, tu disais, mais, je suis utile.
En plus de ça, c'était quand même éducatif.
Ouais.
Parce que je m'en rappelle d'un épisode où il parlait des bornes kilométriques. Donc, ils expliquent aux enfants le rôle d'une borne kilométrique. Ça paraît pas grand-chose, mais c'était utile.
Oui, non, sinon, de toute façon, oui, c'est toujours. Mais malgré tout, il y avait un côté. Quand même, il faut penser qu'on demandait à des gamins de coller des trucs sur l'écran de télé quand ils réfléchissent.
Et je crois que c'était Dorothée qui avait fait une vidéo explicative, savoir comment utiliser les télétacs.
Ah, je ne sais pas si Dorothée. Ah, si, oui, ça pouvait être. Oui, c'était l'époque Dorothée. Par contre, ce qu'il aura de me demander, c'est aujourd'hui, ça ne marcherait pas, parce que je crois que les écrans ne sont plus. Et il n'y a plus à être resté statique, je pense. Ça non, fait l'écran plat, tu fais un bide.
Pour avoir encore une télé à tube.
Alors les enfants, si vous nous écoutez à la radio, prenez un vrai autocollant, vous le mettez sur l'écran de papa et de maman, vous mettez même du scotch ou de la colle stick ou et vous verrez, ils seront contents. Bon, ça se détache pas.
Après, tu changes de télé.
Ouais, c'est ça. Ouais.
À chaque programme.
Moi, faut que je change de pays si les gosses ils m'écoutent.
Il y Il y a des chances. Alors celui, ça rappelle aussi beaucoup de souvenirs, c'est les Tactica. Et ben, on se retrouve juste après.
Pas besoin des questions sexuelles, elle avait chanté ça il y a des années, c'est un vieux 45 tours ça. Elle a co-animé avec Jacques Martin une de ses émissions du dimanche après-midi, c'est comme ça que je l'avais connue quand j'étais gosse. C'était peut-être bien, non ça devait pas être Incroyable mais vrai, ça devait être une autre émission. C'était vous peut-être Le Monde, oui ou alors Le Monde est à vous.
Le Monde est à vous.
Parce que elle, et je crois que c'était, enfin peu importe, c'est pas très important. Et elle, ouais, elle était amusante elle, parce qu'elle elle faisait plein de voix de génériques, des choses comme ça en fait.
Oui. Et qui a fait partie donc du club des présentatrices de Recra 2.
Ah oui, et qui a fait, tu me disais aussi...
Oui, donc après avoir quitté la seconde chaîne, elle a été sur la première chaîne et elle faisait quasiment toutes les voix off pour présenter les bandes annonces des programmes.
Un peu comme Jolie Creshman avant de cartonner. Quoi.
Et elle était aussi une très grande imitatrice.
Ça, je ne savais pas par contre. Ah, ouais.
Très, très, très belle voix.
Ah ouais, non, mais wow, c'est toujours des chanteuses, on sent qu'elles peuvent chanter plein de trucs différents. Quoi. C'est...
Ah bah, quand tu écoutes ces anciennes chansons, oui, c'est à l'opposé de celle-là.
Mais moi, de toute façon, générique télé, je me suis arrêté à Bernard Minet. À partir de Bernard Minet, j'écoute plus. C'est ça, moi, c'est ma limite de l'écoutable.
D'accord.
Voilà.
Et on va devoir déjà se quitter.
Non.
Ben, si.
Non.
Si, 20h47.
Mais non, on passe à l'heure d'été, en fait, on passe à l'heure d'hiver, on t'a menti. On fait encore une heure là.
On va se retrouver mardi prochain.
Ça va être loin, ça va être long.
J'ai encore prévu plein de bons sons et de bons souvenirs.
Ah, encore faire les sons.
Oh oui. Alors on va se quitter avec un grand classique de 1991. Diego Modena et Jean-Philippe Audin.
Hier. Yeah.
Et c'était bien sûr Song of Ocarina. Donc on va se quitter sur cette chanson. Merci à tous de nous suivre, de faire partie de nos fidèles. Ça nous touche énormément.
Oui, ces bouquets de fleurs qu'on reçoit en masse nous font vraiment plaisir.
Franchement, oui. Merci pour tous vos messages. Et donc rendez-vous à mardi prochain, 19h30, 20h30 officiellement, mais on dépasse toujours un petit peu.
On déborde.
On verra bien jusqu'à quelle heure.
Mais c'est nous, on n'est pas bavards, c'est de la faute aux gens qui nous envoient des dédicaces, on est d'accord. C'est pas notre faute.
C'est pas notre faute.
On est d'accord.
On n'y est jamais pour rien. Allez, on se quitte sur Song of Ocarina et rendez-vous mardi prochain. Au revoir.
Au revoir.
Thank you.